le reste d'autonomie de l'UNESCO en matière de défense des patrimoines culturels? Est-ce que c'est un des lieux où va pouvoir se défendre quelque chose?
Je l'espère. Ouais. Vous savez, moi je suis un petit peu un de ceux qui a été à l'initiative de cette lettre ouverte au directeur général de l'UNESCO avec Pierre Bourdieu. On a travaillé ensemble et on a collecté une bonne trentaine de signatures pour ce texte qu'on a rédigé ensemble. C'était un avertissement, en fait, cette lettre au directeur général de l'UNESCO pour lui dire si vous ne vous battez pas contre la GCS, vous pourrez fermer la boîte, quoi. Hein. C'est à peu près ça en substance. Mais on a été reçus après, hein, Pierre Bourdieu, Agnès Bertrand et moi, on a été reçus par le directeur général actuel, le japonais. Il faut se rappeler que c'est un ancien ministre des Finances, donc qui est à la tête de l'UNESCO, ça fait quand même un peu désordre, non? Moi j'ai travaillé pour l'UNESCO, je connais très bien cette maison, j'ai été responsable d'un programme de l'UNESCO au Cambodge, mais c'était à l'époque de Federico Mayor qui était quand même une autre pointure, quoi. Et je pense que si on avait eu Federico Mayor pour lui adresser notre lettre, on aurait eu un autre, non seulement un autre accueil, mais un autre suivi. Il nous a dit, c'est vrai, nous avons négligé, nous comme institution, un certain nombre de choses. Et c'est vrai aussi, je peux en porter témoignage, il y a un énorme débat permanent à l'intérieur de l'UNESCO entre ceux qui se battent pour la protection des vieilles pierres, ce qui est très important, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein, mais il y a tous ceux qui sont très impliqués dans la protection du patrimoine monumental, pour le dire poliment, et les autres activités de l'UNESCO, l'éducation, la science. Ça, c'est une ligne de fracture permanente dans l'institution, et le directeur général joue un peu là-dessus. C'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est ce qu'il nous a dit. Nous avons trop négligé l'enseignement dans nos missions fondamentales. Donc, c'est un aveu. Est-ce qu'il en a tiré des conséquences? Je suis en peine de le dire. Ce qui va être intéressant, c'est... Et il semble quand même que là, il y a une prise en compte, c'est ce travail sur une convention internationale sur la diversité culturelle. Moi, je pense que c'est intéressant parce que je crois que pour changer l'OMC, il faut créer des conflits. Je pense que la démonstration a été faite. Un certain nombre de pays ont déposé des propositions de réforme de l'OMC et on les a envoyées promener, pour le dire simplement. Et en particulier l'Union européenne, qui fait des grands discours sur la démocratie dans le monde, mais dès qu'il s'agit de l'appliquer quelque part, elle est singulièrement hostile. Donc il faut des situations de crise. C'est pour ça que moi je pense que c'est bien d'avoir Cancun qui échoue, parce que ça crée une situation de crise dont j'espère que, avec le nouveau rapport de force qui apparaît, ça débouchera sur des réformes importantes. Et une autre situation de crise, c'est un conflit de normes. Je m'explique. On a par exemple maintenant dans le domaine de l'environnement, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle, je vous ai parlé des brevets tout à l'heure, hein, et notamment du brevetage vivant, mais on a depuis peu de temps, la veille de Cancun, depuis le 9 ou le 10 septembre, la ratification et l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle le protocole de Carthagène, qui est une des applications de la Convention internationale sur la biodiversité, le respect de la biodiversité. Donc là, on a un conflit de normes. Mais s'il y avait une convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle, on aurait aussi un conflit de normes entre cette norme et la norme de l'OMC. Et si on peut multiplier ce genre de conflit, on va forcer la scène internationale à créer ce que nous appelons de nos voeux, nous les militants citoyens, une hiérarchie des normes. Hein, parce que pour le moment, il n'y a même pas d'harmonisation des normes. On n'essaye même pas qu'elles ne se contredisent pas, qu'elles s'harmonisent. C'est le chaos. C'est peut-être normal si on se met dans la longue durée, qu'on regarde l'histoire de l'humanité. C'est vrai que c'est à peu près à partir du XXe siècle qu'on commence à essayer de mettre un peu d'ordre dans ce qu'on appelle faussement l'ordre international, qui est en fait un grand désordre. Donc, sans doute, est-ce assez normal, si on regarde ça dans une perspective de longue durée, d'en être là. Mais ça ne devrait plus durer trop longtemps. Il faudrait qu'on passe à l'étape suivante, c'est de créer une hiérarchie des normes et dire quels sont les types de normes qui ont prééminence sur les autres. Et là, effectivement, moi je ne suis pas de ceux qui mettraient les normes du commerce mondial en premier lieu. Je ne pense pas qu'il faut les mettre nécessairement en dernier lieu non plus, mais il y a des priorités plus fondamentales, les droits humains fondamentaux, les droits sociaux, les droits environnementaux, me semblent avoir la priorité sur les droits de la concurrence commerciale ou le droit de propriété privée, par exemple.